passager, t'as aucun contrôle, fait que tu subis, tu sais. Okay. Mais c'était quand même correct, là. J'ai pas été malade, ça a duré 5 minutes.
Air Montmagny, y a-tu des hôtesses de l'air qui vous passent un petit verre de vin pour traverser?
Non.
Rien
non, mais tu peux prendre un vol pour Québec, tu peux prendre un vol pour Montréal, de Montmagny ou même de l'Île-aux-Grues. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, là. J'ai toujours fait Montmagny, ben, c'est un peu plus Cap-Saint-Ignace, là, un peu plus à l'est de Montmagny. Donc, ça s'appelle Air Montmagny, c'est parfait, les gens sont super sympathiques. Tu as une petite salle d'attente, tu as un garage où il y a 2-3 avions, puis tous les jours, ça décolle.
C'est bien organisé.
Sur l'île, il y a 5 ou 6 enfants d'âge scolaire, donc primaire ou secondaire. Puis ces jeunes-là, tous les matins, prennent l'avion de l'Île-aux-Grues. Ils sont transportés en avion jusqu'à Montmagny. De là, l'autobus de l'aéroport, l'autobus jusqu'à Polyvalente de Montmagny. Puis le soir, ils retournent chez eux en avion.
Wow!
10 fois par semaine. Parce qu'il n'y a plus d'école primaire sur l'île. Il y a à peu près 120 résidents l'hiver, des gens à temps plein, des résidents à temps plein. L'été, ça monte jusqu'à 700-800, là, parce qu'il y a beaucoup de maisons à louer. Moi, je loue régulièrement depuis 25 ans. J'adore ça. Puis là, ma fille a loué une maison tout le mois de novembre. Elle travaille, elle est sexologue, alors elle travaille beaucoup en Zoom. Et puis elle écrit. Alors, elle a loué la maison. Fait que j'ai dit, je vais aller te voir la troisième semaine de novembre.
Ben oui, c'est ça.
Ça a été extraordinaire. Puis c'est tellement beau, là, le fleuve, les dunes, l'hiver, c'est magnifique. C'est sûr que tu as moins de fun à sortir parce qu'ils ventent beaucoup. C'est une île. Mm-hmm. Une île, par définition, c'est venteux. Mais j'ai fait ça en fin de semaine. Fait que j'ai pas pelleté.
C'est isolé, c'est tranquille. Je me pose la question, y a-t-il un service de police sur l'île?
Il n'y a pas de service de police. La Sûreté du Québec, de temps en temps, va faire des check-spots. Là. Des fois, ils traversent. L'été, ils traversent des fans Zodiac. Des fois, ils traversent en auto. Quand il y a comme un festival où il y a beaucoup de chasse à l'automne, alors des fois, il y a des petits festivals ou des fois, il y a des gens un peu plus rough. Là. Alors, la police peut débarquer sur l'île à un moment donné. Mais il y a un infirmier qui est là à temps plein, connecté avec le CLSC de Montmagny. Il y a un petit dépanneur, une petite épicerie qui est ouverte quelques heures par jour. Je dis bien quelques heures. Souvent, c'est 1 heure ou 2 l'après-midi. Mm-hmm. Alors, pour aller chercher quelques affaires. Là, tu ne vas pas chercher un filet mignon là, mais tu vas aller chercher des chips, de la bière, puis du pain, puis du lait, l'essentiel. Alors,
pour quelqu'un qui veut à paix, c'est l'endroit à être.
Écoute, moi, c'est ça. Moi, quand je vais là, moi, j'ai l'impression de changer de siècle un peu. Là. Peut-être pas à ce point-là, mais de changer au moins de décennie.
Ouais. Mais vous avez besoin d'écrire un livre, juste pour moi, un livre sur
excellent.
Votre vie.
Excellent.
Puis aller passer l'hiver là sans aucun problème.
Excellent, oui, c'est ça. Pour écrire, pour étudier.
Ouais.
Et puis moi, je loue à fête de dollars, je loue l'été, je loue au mois d'août. Puis je vais faire 4-5 séjours sur l'Île-aux-Grues. C'est le secret le mieux gardé à Québec, là. C'est à 45 minutes des ponts, à l'est. Tu sors à Montmagny-Centreville, tu prends le bateau, tu checkes la traversée, là, parce que les traversées sont connues au début de l'été, du mois de mai au mois de décembre. Tu traverses, puis c'est magnifique de l'autre côté. Le point de vue, les couchers de soleil sont écœurants, là.
Bien, vous m'en parlez, puis j'ai pratiquement le goût d'y aller, même en hiver.
Oui. L'Île-aux-Grues, c'est magnifique, c'est habité.
Vous avez eu une meilleure fin de semaine que la mienne. Moi, j'ai passé ma fin de semaine à pelleter puis à installer des lumières de Noël.
Oui, mais ça, il faut faire ça. Moi, je voyais, là, Gaïan, je voyais quand il faisait, là, on s'est dit que l'été a été tardif.
Oui.
On s'est dit que l'hiver a été, il finissait plus d'arriver. Puis moi, je regardais ça à mi-novembre, là. Il n'y a personne qui mettait les gorlots de Noël dehors, là, les lumières. Là. Moi, je pense... Maintenant, je ne le fais plus parce que je suis en condo, là, mais quand j'avais une maison, là, après l'Halloween, là, début novembre, j'installais mes lumières de Noël.
OK, mais vous ne les allumiez pas?
Non, mais je les installe. Parce que si tu attends qu'il fasse frette, c'est pas le fun.
Ah non,
tu mets du tape, ça colle pas. Tout est frette, il y a de la glace.
J'ai été chercher des petites pinces, moi, chez Canac, ça a bien été. Là. Mais c'est ça. Y a-tu une règle? On peut-tu les ouvrir à partir du mois de 1er décembre? Tu sais, nos ancêtres avaient tout le temps des règles de même là, sur les dates là, pour poser nos affaires et tout ça. Fait qu'on peut les allumer là, nos lumières de Noël.
Il n'y a aucun problème. Si tu veux payer.
Okay. Je sais pas, j'essayais de convaincre ma blonde de ne pas les allumer.
Le pays l'hydro. Ouais. À Québec, ça commence d'habitude autour du 10 décembre, mais ça finit plus tard. Il y a beaucoup de gens qui gardent les lumières de Noël extérieures jusqu'après le carnaval.
Ouais.
C'est une tradition. Ça va jusqu'à mi-février.
Ouais.
Ça fait quand même un gros 2 mois. Là.
Mais il y en a qui trouvent ça beau.
Ben moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça, moi, les lumières de Noël. Mais même en Floride, il y en a, hein?
Oui.
Partout, au Mexique, à Cuba, on va passer Noël là-bas, tu vois, il y a des arbres de Noël avec des lumières.
On en a l'été au camping, Noël du campeur. C'est Noël, c'est Noël. Hey, on a plein de choses à discuter, vous et moi, ce soir. Je ne sais pas si c'était un de vos chums dans le temps, mais l'ex-juge Jacques Delisle, on va en entendre parler demain.
Oui.
Ça revient, l'ex-juge Jacques Delisle, qui a été libéré de l'accusation de meurtre prémédité. C'est un article de Catherine Lamontagne dans le Journal de Québec. Et on se pose la question à savoir s'il va devoir subir un nouveau procès. Puis les parties vont faire valoir leur argument devant trois magistrats de la cour d'appel et ils devront trancher la question à savoir si on le renvoie en cour ou pas.
Dans l'intérêt de la justice, là, un procès public, là. J'ai toujours trouvé, moi, que c'était la meilleure recette pour donner confiance aux gens. Un procès, quelqu'un est accusé d'un meurtre prémédité. Puis là, les accusations sont... D'abord, c'est un ministre de la Justice qui décide qu'il y a une erreur judiciaire apparemment puis qui décide de scraper tout ce qui a été fait par la Cour supérieure, la Cour d'appel, la Cour suprême avant. Un jury aussi, soit dit en passant. Ouais. Ça a été un procès devant jury, la condamnation. Ouais. Après le ministre fédéral de la Justice... Là, tu as un juge de la Cour supérieure qui dit « Bien là, il y a eu des erreurs dans le processus, puis on casse les accusations, puis tout ça. » Il n'y a jamais eu de procès, sauf la première fois. Mais tu sais, là, si vraiment il y a une erreur judiciaire, moi, ça m'intéresse comme justiciable de savoir, y a-tu une erreur judiciaire?
Ouais, puis pour la confiance du public, puis je sais qu'il y a de ça quelques années, on avait jasé de ça, puis vous n'étiez pas du tout d'accord avec moi, mais on dirait que moi, j'évolue pas. Fait que la bonne nouvelle, c'est que je vais vous dire la même affaire qu'il y a 2-3 ans. Dans son cas, à lui, c'est un juge. Et c'était la première fois au Canada qu'un juge était déclaré coupable de meurtre. Puis si ce gars-là avait été un plombier, un électricien, je suis persuadé, Maître Bellemare, que cet homme-là, parce qu'on parle d'un gars de 87 ans, là, actuellement, aurait fini ses jours en prison. Mais parce qu'il est un juge, parce que c'est très représentatif, il a réussi à avoir... Puis ça vient de moi, ça vient de personne d'autre. Des petites passes droites pour que le ministre de la Justice voit, il y a peut-être eu une petite erreur au procès, on va canceller ça.
Ça a pu jouer au niveau du ministre fédéral.
Ben voyons donc.
Parce que c'est pas un tribunal, c'est privé, ça se passe dans des comités, il y a des gens qui émettent des opinions. C'est pas une délibération très, très accessible. C'est une décision qui n'est pas nécessairement motivée. Il dit, moi, j'ai vu des rapports d'experts, on m'a recommandé ça, puis je décide qu'il y a une erreur judiciaire, puis on recommence le processus, on annule tout ce qui a été fait. Ça peut avoir joué au niveau du ministre parce que, d'abord, c'est un élu, il n'est pas indépendant, il n'est pas nécessairement impartial, puis il est perméable à un paquet d'influences, possiblement. Alors ça, c'est possible que ça ait joué, je ne sais pas. Je pense pas que ça ait joué au niveau des tribunaux qui ont rendu des jugements. Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême, je suis convaincu que ça n'a pas joué, même au niveau de la libération, parce qu'à un moment donné, il avait été libéré. Puis je pense que ça a été bien fait, mais là, l'affaire, c'est qu'il y aurait l'opportunité de se défendre deux fois sur les mêmes accusations. Dans l'intérêt de la justice, c'est sûr que si il n'y a pas de procès... D'un autre côté, il a fait 9 ans de pénitencier. Il a 86 ans, 87 ans. Tu sais, quand tu regardes la question, en dehors du système judiciaire, là, juste ça, là, les questions, les considérations humanitaires, qu'est-ce qu'on aurait comme société à gagner de le retourner en dedans? Je sais pas. En tout cas, on verra bien.
Bien, je pense qu'il faut avoir confiance en la justice. Puis trop souvent, on a laissé aller des individus en prison un court laps de temps pour des gestes absolument ignobles qui ont été commis. Puis les gens sont, tu sais, sans connaissance en droit, sont toujours à l'extérieur, puis regardent ça, puis ils disent, ouais, il me semble que, tu sais, pour avoir fait telle ou telle affaire, c'est pas assez.
Je suis d'accord.
Mais dans son cas, lui, il y aurait, tu sais, ben, en fait, il a été déclaré coupable d'avoir tué sa femme. Là, maintenant, on considère qu'il aurait peut-être tué sa femme, puis on va se poser demain la question à savoir s'il va y avoir un nouveau procès. Pour la confiance de la justice, il faudrait qu'il y ait un nouveau procès. Vous me dites, il a 87 ans, je pense pas que son âge
ait
un lien à voir avec la décision.
Non, je fais une distinction entre le côté, on a-tu intérêt comme société à faire tout ça avec un grand-père, si ce n'est pas un arrière-grand-père de 80 quelques années, qu'il soit juge ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, moi, je me dis, chaque fois qu'on envoie des gens de 80 quelques années en prison, je me dis, qu'est-ce qu'on y gagne? Bon, faut qu'il y ait une sanction, mais à un moment donné, ça, c'est le côté plus social. Mais sur le côté judiciaire, je suis tout à fait d'accord avec toi que moi, j'aimerais ça qu'il y ait un procès, puis qu'il puisse se défendre. Puis si vraiment il y a une erreur... La première fois, c'était une erreur parce qu'il y a eu des preuves qui ont disparu, semble-t-il, qu'il y aurait eu des échantillons qui auraient été perdus par le médecin légiste. À ce moment-là, je sais pas. C'est parce que le juge Aymon de la Cour supérieure, je pense que ce qu'il avait dit, c'est qu'à cause qu'il y avait eu des erreurs dans la manipulation des pièces à conviction, là, des parties d'os puis tout ça, il y a des choses qui sont disparues puis qui empêchaient le juge de Lille d'avoir accès à une défense pleine et entière. Ça, c'est sûr que c'est une problématique. Mais la Cour d'appel, de toute façon, on va devoir l'expliquer, sa décision. Ça, oui. Ça va être bien précis. Là.
Donc, juste pour restituer les gens, c'était en avril 2021. C'était dans l'attente d'un second procès qui n'a finalement pas eu lieu. Ben, lui, il a bénéficié d'un arrêt des procédures parce que, bon, au motif que le pathologiste de l'État avait fait preuve de négligence inacceptable, selon eux, lors de l'autopsie de la défunte. Et le tribunal reprochait à cet expert-là de ne pas avoir documenté suffisamment l'angle de tir et la trajectoire de la balle dans le cerveau. On dit que ces éléments-là étaient importants pour assurer la défense de Jacques Delisle, qui soutient que sa femme, diminuée physiquement et dépressive, s'est enlevée la vie. À ça, je vais juste rappeler que c'était l'arme de Jacques Delisle, une arme qu'il conservait au Palais de justice de Québec. C'est assez particulier, cette histoire-là. Je ne savais pas que les juges pouvaient conserver des armes au Palais de justice. Lui avait considéré à l'époque que c'était pour sa propre sécurité, mais c'est surprenant. Tu sais. Ouais.
Mais il n'y avait pas aussi qu'il y avait, que le pathologiste avait perdu quelque chose. Il y avait des éléments de preuve, je pense, qui n'étaient pas retraçables. Parce que le fait que le pathologiste ait commis une erreur dans l'appréciation de la trajectoire de la balle, si ça peut être corrigé par un contre-expert qui dirait « ben non, on a regardé le crâne, on a regardé le trou, puis on a vu que ça avait rentré dans telle angle », mais je pense que c'était impossible de contredire cet élément de preuve-là parce qu'il y a des éléments matériels qui étaient disparus. En tout cas, c'est...
Hey, ça date depuis 2012, cette histoire-là. Ouais. Pour ce qui est des arguments du directeur des poursuites criminelles et pénales, le pathologiste du ministère public n'a pas fait preuve de négligence acceptable. La trajectoire de la balle n'est pas une preuve qui a été perdue ou détruite, celle que vous venez d'avancer. Okay. Elle a été documentée par le pathologiste de la Couronne. L'identification précise que la trajectoire de la balle ne fait pas objet d'une obligation imposée au pathologiste. La trajectoire ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction de la poursuite et doit prouver hors de tout doute raisonnable afin d'obtenir une déclaration de culpabilité quant au meurtre. Et aucun argument quant à la qualité de l'autopsie n'a été soulevé lors du premier procès par la défense. Ça, c'est vraiment les arguments du directeur de la poursuite criminelle et pénale.
Mais moi, j'ai l'impression, je ne sais pas, je suis un peu surpris parce qu'il me semble que la trajectoire de la balle a toujours été au cœur du litige. Parce que selon que la balle rentre de biais ou qu'elle rentre de face, elle pouvait tenir l'arme ou ne pas. Elle pouvait pas tenir l'arme, dépendant. T'sais. Puis la façon dont la balle est rentrée, ce que la Couronne plaidait, c'est que c'était impossible, compte tenu de la trajectoire de la balle, qu'elle ait pu tenir le fusil compte tenu de son handicap à un bras, à une main. Alors, je ne sais pas, là, ils ont l'air à dire, la Couronne a l'air à dire en appel que c'est la trajectoire de la balle, ce n'est pas un élément essentiel. J'ai toujours pensé que c'était le contraire, moi, là. Puis, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui l'a emporté au niveau du jury. Il y a eu un jury qui a se tranché là-dessus. Oui. Moi, je suis sensible à ça. Quand le jury, c'est le peuple, hein, c'est la population. La population a déclaré le juge Delisle coupable là, à travers le jury. Là.
Donc, c'est peut-être demain qu'on saura si l'ex-juge Delisle va devoir subir un prochain procès. Là, ça a fait jaser Maître Bellemare. Julien Lacroix, je trouve qu'on en jase beaucoup trop, mais en même temps, si on peut apprendre quelque chose de cette expérience-là, parlons-en. Dans le cas de Julien Lacroix, les victimes supposées victimes sont sorties en disant « Ben écoutez, nous, ce qui est arrivé à Julien Lacroix, on s'attendait pas à une si grosse sentence sociale quand on est sorti devant les médias. On voulait parler de ce qu'on avait vécu, mais là, après 2 ans, certaines victimes semblent le regretter. C'est assez particulier, mais ça me convainc pas nécessairement du fait que il peut y avoir 2 systèmes de justice. Moi, de mon côté, je pense que lorsque les victimes se sentent prêtes, elles peuvent aller rencontrer les policiers. Par la suite, les policiers vont amasser des preuves, vont soumettre ça au DPCP. Et par la suite, si le DPCP juge qu'il y a des preuves raisonnables de poursuivre l'individu, ben il le fera. Puis par la suite, cet individu-là se ramassera en cour. Il est déclaré coupable ou pas, mais au moins il va avoir sa sentence. Puis il n'y aura pas d'émotion là-dedans, Maître Bellemare.
Ah, c'est sûr. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que d'après ce qu'on a appris, en tout cas hier, à tout le monde en parle, il y en a été largement question, puis dans l'enquête de la presse du 98.5 à Montréal, ça a été un petit peu la même chose. Mais regarde ce que dit sur le site Droit Inc. Je sais que tu vas sur Droit Inc. de temps en temps. une avocate très respectée en droit criminel qui s'appelle Julie Couture. Elle a fait un texte aujourd'hui qui s'appelle « Julien Lacroix et la justice populaire ». Alors, ce qu'elle rapporte, c'est que l'ex-conjointe de Julien Lacroix, qui était au centre du dossier à l'origine du scandale, tu sais, quand ça a sorti sur MeToo, trouve que son témoignage était trop émotif. C'est elle qui dit ça, là. Oui. Manquait de nuances et ne reflétait pas la réalité. Une autre, qui a participé au même mouvement, étudiante en droit, n'a jamais songé s'adresser au tribunal pour cette histoire. Il s'agissait plutôt, pour elle, de faire un exemple avec Julien Lacroix dans une société qui a un réel problème avec le consentement et les inconduites sexuelles. C'est pas des jokes, là. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que s'il y avait eu une plainte au criminel, probablement qu'il n'y aurait pas eu d'accusation, parce qu'il y aurait eu minimalement un doute raisonnable. Les témoignages n'étaient pas assez fiables. Et s'il y avait eu procès, probablement qu'il aurait été acquitté. Alors, ce gars-là, là, il était traîné dans la boîte, là. Mm-hmm. Sa carrière, c'est quoi, là? Il va-tu en avoir une? Je suis pas sûr. Je pense que ouais. C'est encore pire que s'il avait été condamné.
Faut juste
il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais pu se défendre.
Faut juste mentionner que dans le dossier Julien Lacroix, il y avait plus que 3 victimes, là.
Il y en avait 9.
9, c'est ça. Puis il y a des victimes qui ont dit, ben nous, on garde le témoignage qu'on a fait il y a de ça 2 ans. C'est quelques-unes qui sont sorties pour dire que finalement, c'était
ben, la police,
avec du recul.
Mais pas semblerait trop tard.
Ben oui. Ça me semblerait que c'est... Oui, mais en même temps, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller à la police, mais être bellement, c'est des victimes.
Non, mais on peut permettre à quelqu'un d'aller sur les réseaux sociaux puis de salir n'importe qui. T'sais.
Là-dessus, on va s'entendre. Là-dessus, ouais, on va s'entendre.
Puis, moi, son ex-conjointe, elle doit le connaître un peu.
Oui.
Moi, je considère qu'elle a... ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écœuré, taponné, intimidé une fille dans un bar, à un moment donné, ponctuellement. Ça ne veut pas dire ça. Mais son ex-conjointe, il me semble que c'est assez sérieux, là. Puis elle a participé à cette dénonciation-là. Mais les conséquences, là, c'est un choc post-traumatique. Il se réveille en pleine nuit en panique à l'idée qu'un article soit sorti à son sujet, parce que ça, les médias, c'est puissant. Tu vois ta face dans le journal deux fois par semaine pendant X semaines. Décrit dans les réseaux sociaux comme un violeur en série. Tout son entourage est évidemment affecté. Il a dû déménager pour des raisons de sécurité. Cesser de consommer de l'alcool et faire amende honorable, sa famille aussi qui est touchée. Moi, la victime est où là-dedans, là, aujourd'hui? Là?
Ben, il y en a plusieurs victimes.
Ben non, je sais.
D'autres qui se disent victimes à moitié, puis d'autres qui ne se considèrent plus comme des victimes. Mais le MeToo a eu quelque chose de bon, je pense. Puis dans mon cas, moi, il y a eu quelque chose de bon, c'est que je me suis posé des questions à savoir si mes agissements étaient convenables. Si j'étais de mon époque, c'est-à-dire un individu qui respecte les femmes, qui ne considère pas les femmes comme des objets, ça prend un oui pour passer à une prochaine étape. C'est un non.
C'est sûr.
Un non, c'est pas un oui. On s'est tous posé cette question-là. En tout cas, je pense que
les gens
se sont posés cette question-là.
Les gars se demandaient le lendemain matin, va-tu y avoir quelqu'un qui va sortir quelque chose, vrai ou faux, puis comment je me défends si ça arrive?
J'avais pas nécessairement peur de ça, mais j'ai changé ma façon de travailler avec des femmes. Travailler avec des jeunes femmes aussi, enseignant des jeunes femmes. J'ai changé ma façon de travailler maintenant parce que là, du jour au lendemain, quelqu'un qui t'aime pas peut commencer à dénoncer. Puis là,
laisse ta porte ouverte tout le temps.
Exactement.
Comme les enseignants des écoles.
Ben, c'est ça. Ben, exactement. Quand on fait des rencontres avec les étudiants maintenant, c'est devant des grandes fenêtres pour que tout le monde nous voit. C'est la porte ouverte. Mais ça, il n'y a personne qui m'a imposé ça. Je me suis imposé ça. Puis ça me fait pas de tort là, de laisser la porte ouverte quand je jase avec un élève ou une élève. Mais je me suis posé cette question-là. Mais ce qui peut être néfaste, c'est ce qui arrive là actuellement, c'est que ça laisse un doute sur des victimes. Des victimes sont sorties en disant « ben finalement, je n'étais pas tant victime que ça ». Mais je me pose une question, Maître Bellemare. Est-ce que c'est normal pour un individu qui s'est fait agresser sexuellement? Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été agressé sexuellement. Est-ce que c'est normal pour un individu de voir son boucher, mais comment on appelle ça?
Son bourreau.
Son bourreau, puis avoir pitié de son bourreau sur le sort qui lui a été réservé suite à la dénonciation. Ça se peut-tu que ces filles-là voulaient dénoncer parce qu'ils considéraient que les gestes étaient totalement inappropriés, ils se considéraient comme victimes, mais une fois qu'ils voient l'autre gars qui est totalement démoli puis que l'histoire s'en va beaucoup trop loin, ils le regrettent un peu? Ça se pourrait-tu?
Ben moi, j'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Puis là, il y a une enquête de la presse là, qui s'est faite par rapport à ça, par rapport à Julien Lacroix, pour essayer de voir 5 ans plus tard où est-ce qu'on en est. Dans ce cas-ci, c'est 2 ans. Puis c'est arrivé en pleine pandémie. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est en juillet, je pense, 2020. On était en pleine pandémie, là, OK? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que faisaient les gens en juillet 2020, d'après toi, là? Ils regardaient la TV, ils lisaient les journaux, ils allaient sur le web, puis c'est ça qu'ils faisaient. Fait que la concentration médiatique, il faut comprendre que c'est une époque où les gens sont captifs, sont à la maison, puis l'impact médiatique est super important. Puis des nouvelles, il y en avait sur la pandémie, je ne sais pas si tu te souviens, là. Tu avais toujours 3-4 nouvelles sur la pandémie, les vaccins, le couvre-feu, Arruda, Envoyez-donc. Puis ça, ça sortait comme première nouvelle en dehors de la pandémie. Fait que l'impact médiatique a été terrible. Puis toi, t'es chez vous, puis t'es confiné, là, puis t'as pas de job, là, puis tout le monde a peur, tout le monde se prend avec des masques, là. Puis comment tu fais pour te sortir de ça quand t'es victime de ce genre de dénonciation-là, là? Alors, moi, je suis convaincu que ce gars-là, ce qu'il aurait souhaité, c'est qu'il y ait des plaintes qui soient faites officiellement, qu'il puisse y répondre, qu'il rencontre les policiers, donner sa version, à la limite, plaider coupable sur certaines affaires. J'en ai aucune idée. Je ne connais pas ce gars-là. Je l'ai vu en photo, mais je connaissais même pas Julien Lacroix avant qu'il y ait ces dénonciations-là. Alors, oui, je connaissais Roson, puis je connaissais Salvaille, mais lui, je ne le connaissais pas. Alors, c'est un véritable problème, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut régler ça. Permettre aux femmes, puis aux jeunes, aux hommes aussi, parce qu'il peut y avoir des hommes, des enfants, toutes sortes de monde qui sont victimes, permettre une forme d'exutoire, mais à un moment donné, il y a une vague, là, puis c'est parti, cette affaire-là, puis il y a des gens, très certainement, qui ont participé à ça au niveau de la dénonciation, puis avec des demi-vérités non vérifiables. Et moi, c'est ça qui me dérange. Je dis pas que c'est tout faux, là. Je suis convaincu que la plupart des plaintes sont vraies. Puis je pense qu'effectivement, le système judiciaire ne répond pas à toutes les attentes. Puis il y a certainement des agresseurs qui s'en tirent avec le système judiciaire qu'on a. La présomption d'innocence, ça va très loin. Puis je suis le premier à dire que nos tribunaux sont pas assez sévères, là.
Puis si ce mouvement-là, MeToo, a pris de l'ampleur puis tout le monde a embarqué là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui considèrent ne pas avoir été écoutés par les policiers. Et la semaine dernière, je recevais une sergente enquêteur de la ville de Québec avec un constable. Eux sont avec l'équipe pour la violence conjugale. Donc, ils sont dans le groupe d'intervention violence conjugale. Puis maintenant, les policiers sont formés pour recevoir des victimes à la centrale de police. Puis c'est plus vrai qu'un policier va être très réfractaire à recevoir une victime puis remplir un dossier. Je pense qu'ils sont pas mal tout avertis qu'ils vont faire un méchant tour de coffre de char si jamais un policier commence à dire à une victime, ben là, t'es-tu au courant de ce que ça peut faire sur sa carrière et tout ça? J'ai l'impression que ça n'existe plus dans les grands corps policiers comme la Sûreté du Québec, la Ville de Montréal ou encore la Ville de Québec. Fait que si ça peut donner une chance aux victimes d'aller les voir, là, ben ce sera déjà ça de fait. Mais si ce mouvement-là existe parce que les filles n'ont pas été écoutées, n'ont pas senti qu'il y a eu une justice, là, actuellement, ce qui arrive avec Julien Lacroix, je suis un peu d'accord avec vous, il doit souhaiter à un moment donné qu'il y ait un procès. Parce qu'à partir du moment où tu es déclaré non coupable ou coupable, ton processus pour réinsérer la société s'entame. De un, tu vas payer ta dette, puis par la suite, il va y avoir des éléments qui vont être mis en place pour que tu puisses aller travailler quelque part. Là, le gars ne peut pas faire de bénévolat. Il se fait refuser pour faire du bénévolat. Il est pogné à la maison. Il essaie de travailler, ça ne marche pas. Il ne peut pas revoir son ancienne carrière. Ce serait impensable qu'il ait son ancienne carrière avec les gestes qu'il aurait commis. On lui donne plus de chance, là. Mais c'est est-ce que le gars, on veut qu'il se tire en bas d'une falaise? Faudrait peut-être l'aider à réintégrer la société.
Ouais, c'est une sanction terrible et ça dépasse... là, il a acquis une notoriété, bien sûr, négative. Il y a qu'une notoriété qui est immense et je suis pas sûr, moi, qu'un même un procès aurait eu la même publicité et le même impact médiatique. Effectivement, c'est endémique, là, c'est partout. Là. Lui, puis c'est un jeune, là. Alors comment on réussit à sortir de là? Puis là, la presse a fait enquête sur Julien Lacroix. Mais il y en a des milliers, là.
Oui, il y en a d'autres.
Bon, alors ils ont pris ce gars-là parce qu'il est plus connu.
Oui.
Probablement qu'ils ont fouillé un petit peu, ils ont appelé son ex, puis qu'est-ce que tu penses de ça, puis es-tu satisfaite de l'évolution du dossier, es-tu satisfaite de l'impact que ça a eu, es-tu satisfaite de la conséquence que Julien Lacroix doit supporter. Puis là, ils ont vu qu'il y avait un article intéressant à faire sur peut-être les abus de MeToo ou les abus des réseaux sociaux. Mais il y en a bien d'autres qui pourraient être examinés. La presse a décidé de prendre ce cas-là parce qu'il est connu. Mais il y a bien des moineaux là, qui ont été brassés aussi puis qui sont pas nécessairement aussi connus, mais qui ont vécu le même drame dans leur petit village de 300 personnes en Gaspésie ou au Lac-Saint-Jean. Là.
Est-ce que vous connaissez la justice réparatrice?
Mais ça, c'est une espèce de processus qui permet à la victime de rencontrer son supposé agresseur. Et des fois, il y a un médiateur qui favorise les échanges pour essayer de comprendre, t'sais, puis de faire en sorte que l'agresseur ou la personne qui aurait eu une inconduite sexuelle, sans parler d'agression nécessairement, un comportement peu souhaitable, un comportement qui a amené une certaine honte ou une certaine opprobre au niveau de la victime, que cette personne-là puisse s'échanger pour faire cheminer le gars, parce qu'on parle d'un gars par rapport à une fille dans la plupart des cas, faire cheminer le gars dans son comportement, changer les attitudes, un peu comme tu l'as dit tantôt, moi j'ai changé des affaires dans ma façon de procéder. Bon, alors là, le gars, il dit, ouais, il est conscient de ce que la fille a vécu, il pensait pas que ça allait aller jusque-là, il pensait pas qu'il allait la blesser, puis là, il y a comme une discussion, finalement, souvent ça va aboutir à une forme de sensibilisation. Ouais. Puis pour la fille, ça va être important parce que ça va lui permettre de se libérer. C'est une espèce de soupape aussi.
Ouais. Ça a commencé avec les jeunes.
Je suis pas contre ça, mais il faut que tu aies deux collaborateurs. Il faut que les deux s'entendent pour participer.
Ça a commencé avec les jeunes. Moi, j'étais à l'école Cardinal Roy. Puis il y avait un individu qui avait cassé une fenêtre un samedi. Il y avait quelqu'un qui l'avait vu. Il avait été dénoncé. Puis il y avait une plainte qui avait été formulée à la police. Et cet individu-là, c'était un gars de l'école. Je pense qu'il était en secondaire 3 à l'époque. Et il a eu droit à une justice réparatrice. C'est-à-dire, on déjudiciarise le dossier. Mais tu dois faire des travaux compensatoires. Puis le gars avait été faire des travaux compensatoires, faire du ménage là, dans un hôpital. Je pense que c'est l'hôpital Saint-François-Charron à l'époque. Là, je pense que ça a changé de nom. Mais c'était à François-Charron. Fait que ça, c'était la justice réparatrice a commencé là. Ça se fait encore avec les jeunes. Mais il y a l'ex de Julien Lacroix qui a mentionné que si elle avait su que la justice réparatrice existait avec médiation, elle aurait fait appel à la justice réparatrice. Et on a demandé à Rachel Chagnon, qui est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, qu'est-ce qu'elle pense de la justice réparatrice concernant les agressions sexuelles. Elle mentionne que ça va rarement bien quand on confronte une victime avec son agresseur. Très souvent, l'agresseur va être porté à minimiser ses gestes. C'est sûr, il se sent cheap.
Ou à contester.
C'est ce qui ferait en sorte que la victime, ben, c'est une deuxième expérience traumatisante parce que là, tu confrontes encore une fois ton agresseur, puis lui, il nie pratiquement les faits qui sont arrivés. Et donc, elle dit oui pour les vols et tout ça, mais pour ce qui est des agressions sexuelles, ce serait un peu plus difficile, mais pas impossible.
Oui, mais ça se fait dans les cas de délit, dans les cas de bris, dans les cas de fraude, dans les cas d'agression, voie de fait. Ça, je le sais, j'ai des clients, moi, qui ont participé à ça. Puis ça se fait même à l'intérieur des murs, même après une condamnation, il peut y avoir ce processus-là qui peut peut-être aider le condamné à obtenir une libération conditionnelle, participer au processus de réadaptation, puis ça peut aider la victime aussi. Moi, je crois que ça peut avoir un pouvoir important sur la victime,
mais la justice
de soulager, de dire « Hey, je vais te parler en cas de Dieu, puis je vais te dire ce que j'ai vécu. »
Mais la justice réparatrice, il n'y a pas de police qui est impliquée dans ça, là.
Non.
Donc, je vous mets dans le contexte d'un individu qui travaille auprès des enfants, qui est accusé d'avoir taponné sa petite sœur lorsque sa sœur avait 7 ans, lui il avait 18. Puis aujourd'hui, il travaille auprès des enfants. Sa sœur aimerait avoir de la justice réparatrice. Le gars, il passera pas par le bon couloir, là. Mm-hmm. Puis il va pouvoir continuer à travailler auprès des enfants. Moi, la justice réparatrice, je suis pour ça dans le cas d'un vol. T'as faim, tu voles une pomme, t'as fait une erreur, tu peux te reprendre. On te donnera pas un dossier criminel. La deuxième fois, on verra, là. Mais dans ce cas-ci, l'agression sexuelle, justice réparatrice, on dirait que j'ai eu de la misère avec ça, Maître Bellemare.
Mm-hmm. Ouais, ben ça prend beaucoup d'autocritique de la part de l'individu à qui on reproche des comportements d'inconduite ou d'agression sexuelle. Et ça, c'est pas évident chez les gars là, de concéder que j'aurais dû agir autrement, etc. Ça veut pas dire que le gars changera pas de comportement. Le simple fait d'être invité à participer à de la justice réparatrice, ça peut être pour lui une occasion de se sensibiliser. Mais d'écouter la victime raconter ce qu'elle a vécu, je continue de penser que c'est très bon, mais encore faut-il qu'elle ait des oreilles pour entendre ça.
Ouais.
Ça, c'est moins d'être sûr d'un cas. Parce que les cas d'agression sexuelle, c'est tellement sensible. Tu vas chercher les gens dans le chimique, là.
Ouais.
Tu vas chercher, tu sais, les gars dans leur comportement de mâle, là, le plus profond, là. Tu vas dans le tissu profond, là. Puis la fille, c'est la même affaire. La fille est plus prête à parler parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin d'exprimer quelque chose. Mais le gars, lui, qui n'est pas victime pantoute là-dedans, Bonne chance pour aller le chercher. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça peut peut-être exister dans des cas de pédophilie, par exemple, par rapport à des ados, des choses comme ça, mais j'ai pas vu, moi, personnellement, dans ma pratique, de cas de justice réparatrice dans des cas d'agression sexuelle, mais je l'ai vu dans d'autres genres de dossiers.
Je vous parle de la vedette pas très championne du jour, Stéphane Joachim. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. On parle d'un père incestueux qui a reçu, lui, la peine maximale qui était prévue au code criminel. Puis c'est pas la raison pour laquelle je vous en parle. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que lui conteste sa condamnation à la Cour d'appel du Québec parce qu'il estime que 14 ans, c'est beaucoup trop pour un père incestueux. Et c'est en novembre 2020 que Stéphane Joachim s'est vu imposer ses 14 ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa propre fille alors que sa fille avait entre 13 et 15 ans et il l'a agressée à de multiples répétitions et aujourd'hui sa fille, qui est âgée de 23 ans, a décidé de faire lever l'ordonnance de non-publication qui protégeait son identité. Puis elle était présente aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Je la salue. Je ne sais pas si elle écoute les ondes radio 102.1, mais je la salue. Je trouve que c'est extrêmement courageux. Elle confronte son agresseur parce que lui devait dire ses arguments comme quoi il voulait faire annuler le verdict de culpabilité parce qu'il veut une réduction de peine.
Oui, mais là, il attaque-tu le fait qu'il soit déclaré coupable, parce qu'il a vraisemblablement plaidé non coupable, ou il attaque la peine? Parce que la peine, c'est une autre affaire. Là. Si tu comprends que la charte fédérale, la charte à Trudeau, là, c'est la peine cruelle et inusitée, le châtiment cruel et inusité.
Ouais.
Ça marche, ça. Ça a marché beaucoup. Ça a marché avec Bissonnette, ça a marché avec plein de monde. Cruel et inusité. Si les juges considèrent que ça n'a pas de bon sens, que c'est beaucoup trop sévère, mais la charte leur permet d'annuler même la disposition de la loi, le maximum qui est prévu dans la loi, ou de réduire la peine.
Puis en 2020, on considérait que c'était assez rarissime là, qu'un juge puisse adhérer à la demande du DPCP pour la peine maximale, mais c'est le juge Mario Tremblay qui a décidé qu'effectivement, il allait adhérer à la demande du DPCP parce
Bravo.
Que Joachim, lui, semblait minimiser ses gestes et l'avocat de Joachim estime que cette peine était manifestement non indiquée. Maître Sébastien Saint-Laurent croit que le juge Tremblay a accordé une trop grande importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans cette décision. Et le magistrat s'est appuyé, lui, sur l'arrêt Frenzen de la Cour suprême qui a revu à la hausse des sanctions contre les agresseurs sexuels.
Exact.
Donc voilà, lui était en cours aujourd'hui, puis il devait confronter sa fille.
Mais si on en parle, là, Yann, si on en parle aujourd'hui, là. Alors, ça fait partie de la dissuasion, ça, le côté exemplaire de la peine.
14 ans, c'est très bon.
Dans le sentencing, dans le code criminel défini, il y a plusieurs critères sur le sentencing dont le juge doit tenir compte. Et la dissuasion est un élément important. En d'autres termes, les gens qui écoutent aujourd'hui puis qui ont commis ce genre de crime-là ou qui seraient portés à commettre ce genre de crime-là ou qui l'ont déjà commis puis qui s'apprêtent à récidiver vont se dire « 14 ans, ça cogne ». Alors, il faut que je fasse attention. Donc, je ne le ferai pas. C'est un peu ça, la dissuasion.
Ouais.
C'est de faire en sorte que les gens se disent, bien, ce genre de peine-là, c'est terrible. Alors, moi, je n'ai pas le goût d'aller en prison pour ça. Donc, j'arrête d'abuser de mes enfants.
Exact.
Ou je n'irai pas abuser de mes enfants parce que ça me tente, tu sais. Je vais aller en thérapie ou je vais changer, je vais déménager, je n'y verrai plus, je ne sais pas. Mais, tu sais, prendre tous les moyens pour ne pas abuser des enfants dans le cadre de l'inceste. Mais moi, c'est ce que j'aime des peines sévères. C'est que véritablement, on atteint un objectif de dissuasion qu'on n'a pas quand c'est des peines bonbons ou des peines pas assez sévères, où là, on se dit, bon, ça fait. C'est la page 14 du journal, puis on s'en fout, tu sais, ça n'a pas d'importance. Mm. Et même les criminels eux-mêmes qui regardent ça se disent, ben coudonc, si jamais ça m'arrive, je vais me prendre un bon avocat, puis je vais contester ça, puis je vais aller chercher une peine plus molle. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, les peines sévères. La preuve, c'est qu'on en parle. On n'en parlerait pas si c'était 14 mois, là.
Puis ils l'ont pogné sur des discussions Messenger qu'il avait eues avec sa fille, parce que sa fille le confrontait sur les agressions sexuelles qu'il avait eues entre ses 13 ans et ses 15 ans. Puis lui, ben, il s'est fait prendre dans cette discussion-là. Puis après ça, ben, ça a servi, bien entendu, comme matériel aux policiers pour qu'ils puissent faire leurs preuves, puis qu'il y ait condamnation. Donc, salutations à sa jeune fille qui a... Je pense même pas qu'on peut dire sa jeune fille, mais ben, qui a gardé tout ça de un, mais qui a fait face à son père agresseur au Palais de justice de Québec. Ça devait pas être évident là, psychologiquement. On est live de Québec. Vous êtes à Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Marceau. Je suis en compagnie de Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Vous avez des questions pour nous. 418-971-1021. 418-971-1021. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir.
Ça fait un bout que tu cherches à mettre la main sur un Qashqai, pis t'en trouvais pas. Pocket Nissan, Saint-Nicolas Nissan et Montmagny Nissan en ont prêt pour livraison. C'est un Rogue ou un Sentra que tu veux? Ben, quoi?
Merci beaucoup pour vos commentaires qui rentrent à la station par texto au 418-971-1021. 418-971-1021, vous aimez ça, puis vous nous en faites part. Parlez-en aux autres! Parlez-en aux autres, on est là, live de Québec. À tous les soirs de 18h jusqu'à 19h. Puis si vous avez des idées, bien, vous pouvez m'en faire part aussi. On passe généralement une heure avec l'invité qu'on invite. Puis Maître Bellemare, ben, il est là presque à tous les lundis. Là. Quand il veut bien, ben, il vient voir son chum Marceau à la station. Puis on placote comme ça. Puis pendant la pause, mais parlé de Nathalie Simard qui avait conservé des preuves.
Ben, Nathalie Simard, c'est un bas des packs qu'on appelle. Hein.
Ouais.
Il y avait des enregistreuses, etc. Mm-hmm. Sur elle, la police. Nathalie Simard avait fait venir Guy Cloutier dans sa maison à Roxton Pond, je pense, dans le bout de Granby. Et puis, il y avait des policiers en bas, au sous-sol, qui avaient des magnétophones qui enregistraient toute la conversation. Et elle avait ce qu'on appelle un bas des packs, c'est-à-dire un système d'écoute sur elle pour enregistrer tout ça. Et ce qui est particulier, c'est que, évidemment, quand les accusations sont tombées, je pense que c'était le 1er avril 2004, quand les accusations sont tombées sur Guy Cloutier, spontanément, tu avais eu, si mon souvenir est fidèle, deux personnes, deux notoriétés qui avaient défendu Guy Cloutier puis qui avaient dit « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, puis ça se peut pas ». Il y avait Renan Gélil puis Michel Bergeron, je crois. Et qui s'était mouillé, puis qui avait dit « Non, 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 ça se peut pas. On connaît Guy depuis des années. C'est quoi cette affaire-là? » Puis ça, il va contester ça, puis il va gagner un tour de main. Jusqu'à temps qu'il sache, jusqu'à temps que la preuve soit divulguée et que notre ami Cloutier apprenne qu'il a été enregistré. Et lui, il a été condamné à 42 mois de prison pour avoir agressé Nathalie Simard pendant 10 ans. Et une autre victime aussi, dont le nom n'a jamais sorti. Mais quand même, il était deux victimes. Et un garçon et une fille. Et au moment où il a été condamné, 42 mois, et à 20, il a fait 29 mois de prison. Puis là, il a obtenu une libération conditionnelle. Puis moi, j'étais allé à Monté-Saint-François, au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul,
okay.
Où il était, pour assister. On était une trentaine. Dominique Moret était là, d'ailleurs, à l'époque. Il était journaliste. Et je m'étais déplacé pour aller voir un petit peu comment ça se passait. Et j'ai entendu Guy Cloutier dire « Moi, j'ai jamais été attiré par les enfants. » Bon, il a donné sa libération après 29 mois. Alors, ça veut dire finalement que c'est...
Il n'aura jamais compris jusqu'à la fin.
En tout cas, lui, il mérite bien ce qui arrive, parce qu'il est sorti pas mal du réseau, mais il paraît qu'il fait des travaille un petit peu, puis peut-être...
Je dirais ça après, tantôt, pendant la pause,
peut-être
lorsqu'on
quelqu'un qui est bien proche de lui. Là,
ah oui, vous pensez?
Il y aurait quelques activités, mais ouais. Ça, c'est, je sais pas. Si c'est le cas, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un média qui a sorti ça à un moment donné. Tu sais.
Ben, c'est parce que... c'est
surtout que ça va faire 20 ans, là, ouais. En 2024, ça s'en vient. Là.
Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts, hein, puis ou qui veulent continuer à faire des affaires. Puis si ces gens-là parlent, ils réussiront plus à continuer de faire des affaires. Ouais. Donc, tu sais, tous ceux qui étaient autour d'Éric Salvay, puis qui voyaient ses agissements, ils cautionnaient pas les agissements d'Éric Salvay, mais ils participaient en ne parlant pas, puis en continuant à faire affaire avec cet individu-là. Si tu embauches Éric Salvay alors que tu es au courant de ce qu'il faisait à l'intérieur des entreprises, c'est un peu particulier. Je pense que ça fait de toi quelqu'un d'équivalent à Éric Salvay. Parce que tu sais que tu fais rentrer quelqu'un qui n'a pas des agissements super avec ses collègues de travail. Tu sais, dans l'affaire Guy Cloutier, je ne suis pas sûr qu'il y a juste Guy Cloutier et Nathalie Simard qui étaient au courant. Là.
Ben non, il y a plein de gens qui étaient au courant.
Ses amis devaient probablement...
Ben oui, ils faisaient des tournées.
Exact.
Puis, les gens d'hôtel, puis tout ça. Puis,
ouais.
tu sais bien que ça se savait, puis même la petite a dû en parler.
Puis personne parlait à cette époque-là, tu sais, puis je me souviens, moi, elle est décédée, Mme Payette, tu sais, quand il est arrivé l'histoire de Claude Jutras, elle disait « Claude Jutras, c'est mon ami », puis dans le temps, ben c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais dans le temps, même si c'était comme ça que ça fonctionnait, c'était pas plus acceptable.
Non, c'est ça. C'était pas plus acceptable, effectivement. C'était des mineurs. Puis ça constituait une infraction criminelle. Mais moi, je regarde là, ces personnalités très connues, là, très Salvaille, tu sais, le show du soir, le talk show qu'il faisait. Là, c'était un très bon animateur. Moi, je tripais. Robert Gillet a été, dans mon livre à moi, c'est sûr que les jeunes aujourd'hui ne savent pas nécessairement qui c'est, là. Mais dans mon livre à moi, quand j'écoutais Robert Gillet à Radio-Canada ou à CGRP dans le temps, ça a été un des meilleurs animateurs que j'ai entendu dans ma vie. Là,
intelligence supérieure.
Brillant, culture immense.
Ouais. Une répartie.
Gilles Parent, pas très loin de nous. Là, des animateurs importants, des gens connus, des gens qui ont un impact majeur même sur la réflexion publique sur bien des sujets, qui tout à coup s'effondrent. Il passe de héros à zéro.
Parce qu'il aurait mal agi.
Ben, je me suis toujours demandé, humainement, comment ça se vit, ces choses-là. Comment une personne peut, en l'espace de quelques semaines, ou même quelques jours, ou même une seule journée, comment tu peux passer de
héros à zéro.
Au niveau de l'ego, là, tu sais, quand tu vas partout, tu es invité partout, les courbettes en bois d'ombre. Puis là, tout à coup, schlong, tu sors pas de chez vous, tu sais, tu te caches la face. Puis quel genre de vie tu mènes à ce moment-là?
En même temps, tu n'as pas agi sur le sens du monde.
Je le sais, je comprends, mais le phénomène de l'effondrement, on te comprend-tu?
Tous les noms que vous m'avez parlé, là, c'est tous des gens qui gagnaient des salaires de fou, puis qu'aujourd'hui, là, ils pourraient prendre leur clic puis leur claque puis aller s'installer ailleurs. Ils le font pas, ils continuent à vivre dans notre société, ben, ils auront à faire face aux visages qui les regardent et qui les condamnent en les regardant. Moi, j'ai pas de pitié pour ça. Non, aucune.
Moi non plus. Mais ce que je te dis, c'est que ben, au niveau du salaire, ils ont des bons revenus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des épargnes. Ils font un train de vie en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'ils ont planifié. Comprends-tu, quand tu as 52 ans et que ça va bien ton affaire, tu penses que tu vas travailler encore 15 ans, toi? Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement une sécurité financière.
Dans le cas de Salvaille, il était multimillionnaire. Il y a des actifs. C'est un gars qui achetait et rénovait des condos, les revendait par la suite. Pour ce qui est de Robert Gillet, il était aussi en affaires. C'est pas des gens qui sont dans
le misère. Il a obtenu un bon montant quand il a poursuivi Arthur. Il a eu un bon...
C'est ça.
Une assez bonne compensation.
Exact. Vous vouliez nous parler d'Harold Lebel?
Ben oui. C'est le procès. Hein?
Ben oui, le procès. Qu'est-ce qui se passe?
On peut pas dire c'est qui la victime, mais tu sais-tu c'est qui? Tu le sais, hein?
Oh, je sais qui.
OK, bon. Alors, mais là, ce qui sort aujourd'hui, c'est que Maxime Roy, l'avocat de Lebel...
Un des meilleurs avocats au Québec.
Oui, en droit criminel, en tout cas, a demandé au juge Francoeur la permission de ramener la victime dans le box des témoins pour lui faire dire qu'elle participait à un
documentaire.
Un éventuel documentaire planifié par Québécois. Moi, je trouve que c'est bon d'avoir fait ça. Parce que, dans ma tête à moi, ça peut suggérer, je ne dis pas que c'est le cas, ça peut suggérer que la victime a peut-être mis un petit peu d'emphase, un petit peu de friture. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, là, tu sais. Mais quand tu participes à un documentaire, tu veux être le roi du documentaire.
Ben,
tu veux scorer.
Tu veux que le documentaire soit bon, là.
Oui, parce que là, tu souhaites gagner ta cause. Mm. Tu souhaites donc qu'il y ait une condamnation. Un ancien député en fonction qui fait ces choses-là pendant son mandat.
Ouais.
C'est terrible. Alors, elle a réussi à faire tomber un géant. Je ne sais pas si ça va avoir un impact. On parle quand même de 12 jurés. Je pense qu'il y a 9 femmes, 3 hommes là-dedans. Ça va-tu être déterminant? Je ne le sais pas, mais je pense qu'apprenant ça, il y avait la responsabilité de faire revenir la victime et d'y faire admettre ça. Puis ça l'a mis, d'après ce qu'on voit dans la dépêche d'aujourd'hui, ça a mis la victime un peu dans une drôle de situation parce qu'elle n'avait pas beaucoup de réponses à donner à la question « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? »
Mais est-ce que ça pourrait être un mobile pour mentir devant le juge? C'est comme ça que
je dirais. Je dirais pas mentir, je dirais peut-être. Tu as un documentaire là, qui va être choc, là, qui va être important. Là. Ça va être parce que c'est le procès d'Harold Lebel.
Ouais. C'est un procès devant un jury aussi. Là.
Devant jury. Alors,
ce qui est particulier.
Alors, il y a une pression pour gagner.
Ouais.
Bon, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu un petit peu d'emphase, un petit peu de, qu'on ait mis un petit peu plus, qu'on ait ajusté les affaires? Je ne sais pas. Alors, on le verra bien, qu'est-ce que ça peut changer. Mais je sais que dans le cas de Gilbert Rozon, les victimes s'étaient parlé entre elles. Il y avait eu des meetings, il y avait eu des rencontres.
Ouais.
Et la Couronne avait décidé de ne pas aller de l'avant avec les accusations de, mm-hmm. de plusieurs, en fonction de plusieurs témoignages,
ouais.
parce que ça sentait un peu l'organisation de témoignages, l'aménagement, une forme de concertation, puis
en même temps,
ça peut être fatal. Mais ouais. Non, mais ça peut être fatal au niveau criminel.
Mais tout le monde qui est appelé à la barre est préparé. Là. Tu sais, un avocat qui se respecte ouais. va préparer l'individu à faire face
oui.
aux questions adverses.
Oui, mais là, les victimes s'étaient rencontrées, puis s'étaient concertées. Il y a comme une espèce d'objectif d'obtenir une condamnation, une espèce de stratégie qui était développée autour de ça. Puis il y a peut-être qu'une victime qui raconte son histoire peut suggérer un certain nombre de choses à l'autre, inconsciemment, qui va dire « Ah ben oui, moi aussi, je pense que ça m'est arrivé, puis sais-tu que ça ressemble à mon histoire, puis des fois, ça peut un peu altérer la réalité. Ça peut un peu changer la réalité. » Puis la Couronne avait décidé de ne pas aller de l'avant en se disant que si ça se savait, ça pouvait avoir un impact sur la crédibilité des victimes.
Quelle est la stratégie d'Harold Lebel de demander un procès devant juge et jury? Parce que... moi, je ne suis pas avocat, là. Je connais pas le droit. Moi, j'aurais pris un juge.
Oui, tu as raison. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ça.
Soulever le doute.
C'est certainement
raisonnable.
Son avocat qui en a parlé, mais là, je ne sais pas. Puis moi, évidemment, je n'ai pas assisté au procès. J'y vais par le biais de ce que les médias nous rapportent. Mais j'ai beaucoup de misère à concevoir qu'une personne puisse dire « je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça ». En même temps, de dire qu'elle a pris de la boisson puis qu'elle n'a pas un souvenir très, très, très précis de ce qui est arrivé. Tu le sais ou tu le sais pas? Si tu as pris de la boisson puis tu le sais pas ou que tu n'es pas sûr, ben tu n'es pas ben en position pour nier catégoriquement avoir posé certains gestes. C'est un ou l'autre, là. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que M. Lebel a amené comme témoignage. Et il y a peut-être là des contradictions. En tout cas, on verra. C'est sûr que pour gagner... dans ce genre de cas-là, pour pouvoir être acquitté, il faut être cru. Et pour être cru, il ne faut pas te contredire. La première règle, c'est ça.
Mm.
Et on verra bien. Mais c'est beaucoup, comme dans bien des cas, c'est beaucoup relié au consentement. Mais il y a plusieurs éléments. À un moment donné, la fille a dit, ben, je pense qu'il y a eu un baiser non consenti. Après ça, il y a eu détaché du soutien-gorge. Après
ils ont
ça,
dormi en cuillère.
Après ça, ils ont dormi en cuillère. Après ça, il y a eu des attouchements intimes. Après ça, il y a eu forcé à la porte de la salle de bain. Il peut y avoir un des éléments qui est retenu. Le jury peut considérer qu'il y a, sur un ou deux aspects, il n'est pas nécessairement obligé de le reconnaître coupable pour l'ensemble des faits.
Je comprends.
Il suffit qu'il y ait une séquence qui soit vraie
okay.
aux yeux du jury, puis que ça constitue... Un geste de nature sexuelle qui n'a pas été sollicité, à ce moment-là, ça devient une agression sexuelle.
C'est compliqué de faire l'amour en 2022, Maître Delmore.
C'est compliqué.
Avec le MeToo, il y avait, aux États-Unis, il y avait sorti une application. Je ne sais pas si ça s'est répandu dans tous les campus aux États-Unis, là, mais je sais que c'était une application qu'on pouvait télécharger sur notre cellulaire. Et avant de faire l'amour, on ouvrait cette application-là et on connectait avec l'autre personne, là, cellulaire à cellulaire, et tous deux devait consentir par une signature du doigt qu'il était prêt l'un et l'autre à faire des mamours.
Ouais, quand même. Mais moi, à mon âge, c'est moins compliqué. Mais je regarde j'ai un fils de 23 ans.
Ouais.
Je regarde les jeunes dans la vingtaine, les universitaires, les jeunes garçons qui arrivent sur le marché du travail puis qui sont en cruise, là, tu sais.
Ouais.
Ils ont des parties, ils ont des amis, ils sortent, etc. C'est effectivement un peu compliqué parce qu'à un moment donné, tu as toujours derrière la tête l'idée qu'il puisse y avoir éventuellement un comportement, une attitude qui puisse blesser ou choquer ou qui puisse rien se produire, mais que le lendemain matin, pour une raison ou pour une autre, la personne, la partenaire, puisse se rendre au poste de police pour déposer une plainte pour X raison.
Ouais.
Moi, j'ai jamais vécu dans ce monde-là. dans les années 70, quand j'étais à l'Université de Montréal, au Cégep, ça se vivait pas, ces choses-là. Peut-être que c'était trop slack, trop lousse, puis trop permissif pour les gars aussi à l'époque. C'est bien possible. La plupart des filles le diraient. Mais aujourd'hui, le balancier est plutôt rendu de l'autre bord, là. Et pour les jeunes hommes dans la vingtaine, honnêtement, je te le dis, là, moi, j'ai l'impression qu'ils doivent vivre une petite dose d'anxiété par rapport aux relations avec les femmes, puis au cruising, puis aux approches, puis aux façons de faire. Puis,
mais en même...
le consentement, c'est toujours aussi compliqué en matière sexuelle. Ouais. Ça le sera tout le temps, pendant des siècles. Ouais. Jamais on va régler ça. Hein?
Ouais. Mais tu sais, on s'entend que la personne peut retirer son consentement à toutes les secondes de la relation sexuelle. Là.
Ouais.
On s'entend là-dessus. Mais juste pour ce qui est des rencontres, Maître Bellemare, je ne reviens pas que je jase de ça avec vous. J'ai l'impression que c'est plus facile. Dans notre temps, il fallait sortir. Hein? Faut aller au bar, fallait aller au resto, fallait aller danser, fallait créer un contact. Là, tu avais comme 3 heures pour essayer d'intéresser madame ou monsieur. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'application. Là.
Ouais,
on swipe à gauche, swipe à droite, swipe à gauche, swipe à droite.
Premier contact.
Ouais.
Le premier contact, oui, c'est numérique. Mais le deuxième, puis le troisième, puis le huitième contact, il n'est pas numérique, lui. Il se passe dans le bocal, là. Il se passe dans un espace limité.
Sauf que sur
dans
l'application...
Dans un condo, dans un appartement, dans une auto,
Sauf que sur l'application, c'est beaucoup plus facile. Il y en a qui recherchent des relations à long terme, puis il y en a qui recherchent des relations à court terme.
C'est ça.
Donc, puis c'est mentionné dès le départ.
Mais comme tu dis, le consentement peut te retirer en tout temps.
Tout temps.
C'est une drôle de bébite, ça aussi.
Oui, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Là,
je sais.
Mais donc, l'individu, il commence, puis il pue.
C'est ça. L'anatomie masculine n'est pas nécessairement timée sur le même modèle que...
Maître Bellemare. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui savaient pas où est-ce qu'on était rendu, vous et moi. Puis ils viennent de s'intoniser, ils viennent de m'écrire. Là. C'est très content de vous entendre.
C'est ça que s'appelle bonsoir.
Puis j'imagine que ça, c'est une madame. Elle dit « contente de te réentendre ».
Oh là là!
Contente. Mais quoi qu'on ne peut pas présumer du sexe, là, mais elle a dit « contente de te réentendre ». Donc, j'imagine qu'elle parlait de vous.
Voyons.
Ben oui. Mais ils viennent de nous découvrir.
Non, toi, c'est toi, puis moi, c'est vous.
Fait que parlez-en.
Les vieux, on se fait vous voyer.
Parlez-en, Maître Bellemare. Vous êtes rendu sur les ondes de Boulevard 101 une fois de temps en temps, lundi, avec Marceau, puis on jase de plein de trucs, même de rencontres.
Ouais, par nous deux quand même, pas de rumeurs là.
Non, mais j'ai un chum qui est sur l'application Tinder, OK? Puis il m'expliquait qu'il y avait à peu près 5% de réussite. Puis là, j'ai dit, ben si tu sais que t'as 5% de réussite, c'est parce que t'as toujours bien swipé 100 personnes de l'autre bord.
Okay.
Il dit, ouais. Ils ont plus de gêne.
Hein. Hey, il doit avoir des tendinites au pouce, lui, à pitonner de même.
Je sais pas. Comment ça, vous savez que c'était avec le pouce?
Ben non, mais j'imagine.
On va laisser
ils
là-dessus, mais tellement.
Tic-tic-tic-tic-tic.
Vous en savez des choses.
Mais je l'en ai certain.
Ouais, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, on peut vous contacter chez bellemareavocat.ca.
Bellemare Avocat en tout temps, 24 heures par jour.
Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Salut!
Salut, Yann.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1 vous est...